Aurélie Sfez, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au marché de la Ciotat sur le Vieux Port. Bon, d'abord, je suis heureuse de vous retrouver pour cette première de Rendez-vous Place du Marché, saison 2. C'est reparti pour le France Inter Tour, chez vous, dans toutes les régions et même en Outre-mer, et avec vous. Et nous, on est ici, à la Ciotat. La mer, le ciel rose, les palmiers, on a mis le chapeau et les lunettes, et on s'est dit, chouette, c'est pas mal pour commencer. Mais la Ciotat, ce n'est pas que ça, malheureuse. Les clichés, le pastaga, la carte postale, peu cher, France Inter, t'es pas descendu jusqu'ici pour ça. Hier, Sabine, la dame de l'hôtel, m'a dit, vous verrez, c'est pas pareil la Ciotat, on n'est pas à Porquerolles ici. Là-bas, tu vois, c'est le chantier naval. Il est énorme, et c'est notre histoire. Toutes les familles ont bossé au chantier ici. Sabine, comme tant d'autres ciotadins, adore son coin de Méditerranée. C'est une baie pas banale, qui fourmille d'activités, qui a une forte identité. Même Stendhal voulait venir vivre ici, à la Ciotat. Et nous, on est de passage, avec un micro rouge, au bar du marché, chez Hervé, au bistrot Le Central. Et on va vous faire découvrir la Ciotat comme jamais. La Ciotat, la vraie, on va déambuler partout, avec nos invités, professeurs, chanteurs, patrons, pêcheurs. On est ensemble, sur France Inter, au marché de la Ciotat, pendant une heure. Bonjour Marie-Noël.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes professeur de Provençal au collège Virbel et puis au lycée ici à La Ciotat.
Oui, au lycée Lumière également.
Bonjour Stéphane, bonjour François, bonjour Tatou, bonjour Blue. On vous appelle Blue et Tatou.
Oui, c'est comme ça qu'on nous appelle. Bonjour Aurélie.
Vous êtes Blue.
Ouais, moi c'est Blue.
Vous êtes Tatou.
Ouais, mais toi tu es Aurélie alors.
Moi c'est Aurélie.
Ah ben voilà, non, ça va, on est bien.
Comment je vous présente comme une partie de Massilia Sound System?
Alors effectivement, on est un morceau de Massilia Sound System et on est aussi un morceau de Moussuté et de Jouvin. Donc voilà, on est plusieurs morceaux en un.
Il a très bien dit, donc on est le tiers de Massilia et l'entière responsabilité de Moussuté et de Jouvin.
Blue, vous êtes le guitariste?
Voilà, moi c'est ça. Moi j'ai les cordes en main et j'accompagne mon camarade.
T'as tout, vous chantez?
Moi je chante, ouais. Je parle aussi fatalement. Généralement quand tu chantes, c'est que tu parles. Voilà.
Beaucoup.
Je parle beaucoup et je chante un peu moins.
Il y a vous, Hervé.
Ah, oui, bonjour. Bonjour Aurélie. Très heureux de vous recevoir au Central.
On est chez vous ici.
On est au bar voilà, du port, pas au milieu du marché.
Le Central ici, au milieu du marché, c'est le QG.
C'est le QG de pas mal de choses, déjà culturelles, certes, pour beaucoup de musique. En effet, on fait pas mal de concerts et on reçoit ces magnifiques musiciens que vous avez là. Centre du port de la Ciotat, déjà.
Merci de nous accueillir.
C'est tout le plaisir est pour nous. Sympa. Merci, merci Aurélie, merci à toute l'équipe de France Inter. Va falloir que j'aille bosser.
Et vous nous servez quoi? Un petit café?
L'heure, là, le café, c'est pas qu'il est proscrit, mais serait mieux de passer peut-être à un anis.
Avec modération.
Avec énormément de modération.
On est bien tous ensemble. On est ici, au marché de la Ciotat. Animé, coloré, super sympa. Vous écoutez Rendez-vous Place du Marché sur France Inter, ici sur le Vieux Port. Et on va écouter un peu de musique et puis on se retrouve juste après. Tatou et Blue, qu'est-ce qu'on écoute?
Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute le cul sur le perron. C'est mon perron, donc voilà, c'est le cul sur le perron.
C'est Moussuté et, alors vous allez le dire mieux que moi.
Moussuté et les Jouvins, ce qui veut dire Monsieur T et les ados.
C'est qui notre programmateur préféré?
Il s'appelle Chewbacca.
Évidemment, le meilleur selecta de France Inter.
De draia sulle ore stella tante gute de draia montagne ocean se sobi montes la carta dei segredo cami sobi montes la carta che te insegna l'utri je viendrai m'asseoir ici le cul sur le perron contemplant le vaste monde à l'autre bout de ma rue. Je viendrai m'asseoir ici, les pieds sur le goudron, voir le spectacle du monde mieux que je ne l'ai jamais vu. Dans le viaggi, les gens ils estassient, falant sur des passages, des patients impatients. Sabi montes la gaga, quand tout semble en blanc. Sabi montes la gaga, quand il faut des trias. M'asseoir ici, le cul sur le perron, contemplant le vaste monde à l'autre bout de ma rue. Je viendrai m'asseoir ici, les pieds sur le goudron, voir le spectacle du monde mieux que je ne l'ai jamais vu.
Hommes, forgia l'histoire. Corre, Civalo, corre. Repoussa les rares et désvela les mystères. Tout joute on a la paix ou les lagues d'opra.
Je viendrai m'asseoir ici, le cul sur le perron, contemplant le vaste monde à l'autre bout de ma rue. Je viendrai m'asseoir ici, les pieds sur le goudron. Voir le spectacle du monde, mieux que je ne l'ai jamais vu.
Vous écoutez France Inter et nous avons tous rendez-vous place du marché, ici à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Tatou, vous chantez dans cette chanson « Je sais où est la tâche quand vient le mauvais temps, je sais où est la tâche quand le vent souffle trop ». Elle est où la tâche ?
La tâche en tant que l'estac, c'est-à-dire l'endroit où mon bateau est amarré. Cette chanson, elle sort de... Alors si tu peux te retourner, tu vois, il y a une petite rue là-bas, elle sort de cette rue. Et de ma rue, en fait, quand je suis sur mon perron, je vois la mer. Et donc quand tu vois la mer, en fait, tu vois le monde.
C'est-à-dire pas rester dans son petit chez-soi ou dans son petit chez-soi, on imagine un monde.
Les deux. C'est-à-dire avoir un petit chez-soi pour se construire, pour se faire des amis, pour se faire une famille, et puis avoir un monde parce que pour assouvir ta curiosité, pour aller voir s'il n'y a pas des recettes de cuisine, des recettes de vie sympas ailleurs à ramener. Et évidemment, pour ramener, il faut bien avoir un endroit, une attache. Voilà. Et donc, il faut bien avoir un petit chez-toi. Donc, je pense que on est toujours dans ce processus qui est très symbolique du bord de mer, finalement.
On le voit, là, d'ici, on voit les bateaux.
On voit le chantier en face, c'est-à-dire la moitié de la ville qui est l'usine, en fait, l'usine en plein air.
Avec Il est énorme. On a l'impression que ce chantier, c'est un symbole, comme la Tour Eiffel, avec ses grues.
Oui, c'est ça. Ces grues, elles font partie du paysage.
Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux, Blue et Tatou?
En fait, en 98, Massilia est venu s'installer à La Ciotat.
Massilia Sound System.
Massilia Sound System est venu s'installer à La Ciotat, car ils étaient logés à Vitrolles, et Vitrolles, à cette époque-là, basculait dans
le Front National.
Dans le côté obscur. Et donc, ils ont été accueillis à La Ciotat par la mairie communiste à l'époque.
C'est quoi cette histoire à Vitrolles? C'est-à-dire que vous êtes parti de vous-même, de Vitrolles, ou vous étiez un peu censuré à Vitrolles?
Les deux, on va dire les deux. On n'avait pas envie de discuter avec les gens qui avaient pris la mairie.
C'était Maigret à l'époque ?
C'était Maigret, oui, de triste mémoire. On avait eu vent que, de toute façon, il y allait avoir des problèmes avec toutes les associations qui, on va dire, qui n'étaient pas d'accord avec leur politique, leur idéologie. Donc on a préféré partir. Comme il le dit, on a été gentiment accueillis ici à l'époque, puisque quelques temps plus tard, on a été à nouveau virés pour les mêmes raisons d'ici. Et c'est vrai que c'est à cette occasion qu'on a rencontré Blue. Et pour un groupe comme Massilia qui chante Marseille, la Ciotat n'est pas un truc exotique. La Ciotat est quand même, avec son côté industriel, est quand même une goutte marseillaise qui est posée un peu plus loin, qui est l'endroit où s'est installée l'industrie au milieu du 19e siècle. Et finalement, ça a créé une espèce de culture spéciale, de civilisation spéciale, on va dire, entre travail, industrie, usine et bord de mer. C'est parce qu'on se nourrit de nos différences qu'on se retrouve dans l'action le plus uni. Et en face, c'est battu en brèche par une idée de forteresse, on va dire, une idée de repli sur le château, là, qui ne vient pas de nous, en fait. Qui ne vient pas de nous, mais qui, malheureusement, comme elle a le vent en poupe, des fois, passe au-dessus de notre idée, nous, de
votre humanité.
De notre humanité. Voilà.
Marie-Noël Pieracci. Pieracci, c'est corse comme nom ?
Et non, c'est italien.
Ah, tu me plantais.
Mais c'est pas grave, hein, parce qu'il y a eu une époque où les frontières avaient bien moins d'importance qu'aujourd'hui. Et être italien, ça pouvait être aussi être voisin de l'Occitan et être occitan. Et la langue, par exemple, ça pouvait être un facteur d'intégration très important.
La langue, justement, on en parle avec vous. Marie-Noël Pieracci, vous êtes prof de langue occitane, provençale, au collège ici à Virbel et puis au lycée de la Ciotat. Le provençal, c'est une langue vivante.
Bien sûr que c'est une langue vivante. C'est ainsi que je le conçois, c'est ainsi que je l'enseigne. Et quand on enseigne cette langue comme une langue vivante, on appréhende mieux le monde qui nous entoure.
On le comprend mieux.
On comprend les noms de lieux, on comprend la Ciotat, on comprend la Sainte-Baume, la Sainte-Baume, les Calanques. Et c'est un bonheur.
Le provençal, vous l'enseignez en LV3.
En LV3, ça peut être aussi LV2. C'est très controversé.
Ouais, parce qu'il y a quelques mois, le Conseil constitutionnel s'est positionné contre les écoles immersives et les langues régionales en LV1. Et pour les sages du Conseil, la langue officielle, ça doit être le français.
Alors, que la langue officielle soit le français, j'ai rien à dire contre ça. Par contre, je pourrais dire que l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français, pourrait être légèrement modifié, quoi. Si on empêche la France d'avoir des écoles immersives, c'est-à-dire qu'on se prive du meilleur enseignement et de la meilleure transmission dans le service public.
C'est-à-dire qu'apprendre une nouvelle langue, quelle qu'elle soit, apprendre plus n'enlève rien.
Ça n'enlève rien, au contraire. C'est toujours une valeur ajoutée. Et au plus on apprend de langues, au plus on peut en apprendre. Mais bien sûr, apprendre le provençal, ça peut ouvrir à une meilleure compréhension, de toute façon, de l'italien, de l'espagnol, du roumain. Cette curiosité, cette appétence pour les langues, alors c'est une ouverture européenne incontestable.
Il y a une musicalité aussi de la langue. Ouais,
après, il y a plein de choses. Je fais partie d'un groupe, c'est le Massilia Sound System. Tu vois. On a essayé en français de traduire Sound System. On n'a jamais réussi. Par contre, en occitan, je fais Raga Baletti. Le Raga Baletti, le bal des ragamuffins. De suite, ça nous est venu de suite. Parce que l'occitan a plus de possibilités que le français. Il y a ce côté sauvage et en plus, j'allais dire, amazonien de l'occitan. C'est-à-dire que là je parle mon provençal maritime. Si je vais à Toulouse, je vais parler un autre occitan. Mais je vais bénéficier des différences aussi dans le truc chatoyant, l'arc-en-ciel, quelque part. Et ça me plaît.
L'universalité des langues et le fait de bien connaître la langue de chez soi, avec tout ce que ça peut nous apporter dans la vie quotidienne, c'est vrai que ça nous donne un autre regard sur les autres langues et les autres cultures. Ça nous rend plus riches et plus forts, parce que partout où on va, on va demander, mais alors ce mot, c'est quoi? Est-ce que ça parle de cette montagne? Est-ce que ça parle de cette mer? Est-ce que ça exprime une façon de vivre? Ah oui, c'est quoi?
Il y a des images.
Nous, on a bien conscience que gommer les différences, gommer les particularismes, c'est pas la chose à faire. Au contraire, et on va pas nous dire non plus de parler sans notre accent.
On y va?
Allons-y, la neige.
Comment on dit, on va se balader dans le marché, tiens?
Alampaseja, Sulumerka.
Alampaseja, Sulumerka.
Fouasseben, Asben par là. Reste encore un petit peu, tu vas voir que tu seras comme nous, un vrai caméléon, hein, pas de problème.
Merci, Aurélie.
Hervé.
Merci d'être passé à la maison, au central.
On reviendra.
Bah écoutez, quand vous voulez. Et voilà. Et là, vous allez voir notre ami Gérard Caro-Danon, vous allez vous régaler.
On va le rencontrer au chantier naval tout à l'heure.
C'est le paradis là-bas, c'est magnifique. Il va vous régaler.
Allez, bisous.
Merci Aurélie.
Tellement sympa, Hervé.
Ben oui, Hervé est sympa, bien sûr. C'est à la fois une force, à la fois c'est, il est rassurant, c'est un endroit voilà, où on aime venir pour ça, pour toutes ces raisons-là. Quoi. C'est un peu une institution, le central, quoi, tu vois.
Mesdames, bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Un rouleau de panisse.
On marche le long du marché, le long du port.
Ouais, c'est une espèce de marche vers l'usine, mais en complète contradiction et opposition avec la nature qui est juste derrière, puisqu'on voit les trois secs, donc ces trois collines qu'on voit derrière, qui font face à la mer et qui renferment nos calanques. Et je trouve que c'est une espèce d'image dont je me lasserai jamais.
C'est un panorama incroyable. Hein.
Ouais, c'est assez incroyable.
Rendez-vous, place du marché, sur le front de mer à la Ciotat. On est bien, il fait beau, il fait chaud, c'est magique.
T'as vu, c'est un des plus longs marchés du monde, je pense. Parce qu'il n'est pas sur une place, donc il est sur le bord de mer. Donc c'est une espèce de linéaire comme ça, de forain. Et tu entends parler toutes les langues, tu as toutes les odeurs, tous les accents. Tout ça, c'est assez louable.
Vous voyez, quand je fais le marché, alors, au bout d'un moment, j'en ai marre du monde. Je passe,
tu vois, le chemin de traverse.
Voilà, je prends des variantes, on dirait. Donc, on prend le chemin de traverse, tu vois. C'est très marrant, on va faire l'envers du marché.
Et hop.
On est passé finalement de l'urbanité complète, forte, à l'espace. Et si tu veux, ce golfe que notre poète Émile Ripert a appelé le golfe d'amour, ce qui est vachement beau, ce golfe, il est des fois tellement calme que tu as l'impression d'habiter au bord d'un lac en Suisse.
Et il y a une espèce de poésie qui se mélange d'industrie et de nature, enfin tout ça. Voilà, le marché, c'est aussi...
On se bouscule.
Oui, voilà, cette espèce de ce contraste, tu vois, entre usine et nature, voilà, toutes ces choses-là. C'est une source inépuisable d'inspiration, quoi.
Blue Tattoo. On a traversé tout le marché de la Ciotat sur le vieux port et on va entrer dans le plus vieux cinéma du monde, ici à la Ciotat. Mais avant, saviez-vous que la pétanque était née à la Ciotat?
On pourrait oublier certaines choses, on a tellement inventé de choses là, qu'on pourrait en oublier. On a fait la pétanque quand même, non, on n'a pas oublié.
1910.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Je peux m'asseoir avec vous un peu?
Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la pétanque?
Ben, je viens d'arriver là, je vois que c'est un boulodrome énorme.
Oui.
Et vous êtes assis sur votre chaise de camping.
Tranquille, on regarde les jeux. On jouait avant, on ne peut plus jouer, on vieillit.
Donc vous observez maintenant?
Oui, on regarde.
Vous connaissez Jeannine?
Oui, beaucoup, oui. C'est une ancienne bouddhiste. Toujours, voilà, de l'Antiquité.
Vous êtes un bon tireur, vous?
Ça va, je ne vais pas me plaindre non plus, mais bon. Voilà, voilà, on va pointer, on va essayer de gagner ce fameux point. Là. Pas évident. Voilà. Allez, Julien, il y a France Inter là, qui te regarde, allez.
Bravo!
Pas mal. Ah,
pas mal.
Voilà, je vous présente M. Vincent Balbi.
Enzo, donc.
Enzo.
Oui, c'est moi.
Pour les amis.
C'est à quel sujet? C'est France Inter. Mon Dieu, quel honneur.
C'est ici qu'a été créée la pétanque.
Ça a été créée, oui. Elle était inventée, en fait, ici, parce qu'on appelait ça le jeu provençal. Ça n'existait pas, la pétanque.
Ah oui, ici, c'est vraiment le berceau de la pétanque, parce que c'était les pieds tanqués.
Les pieds tanqués.
Tanqués, ah, assis, voilà.
Les pétanqués.
Les pétanqués.
Allez, Suzanne, à toi.
Il y avait quelqu'un de la Ciotat qui s'appelait Hugues, qu'on avait surnommé Jules Lenoir. Et puis un jour, lui, il était un peu fatigué, était perclus de rhumatisme. Il s'est assis sur une chaise pour regarder ses collègues jouer, en fait. Et en étant assis sur la chaise, il a pris la boule, il a commencé à la jeter à 2-3 mètres. Les collègues, l'ayant vu, lui ont dit « Bon, mais on va essayer de te faire plaisir, on va faire comme toi. » toi, tu es assis sur la chaise, nous, va ne pas bouger, les pieds tanqués. Et puis, c'est parti de là, la pétanque.
Voilà, c'est votre pote.
Voilà, il a encore tapé.
Pas mal.
Allez.
Il y a les Marseillais qui ont voulu s'en approprier à l'époque, en disant qu'elle était inventée à Marseille. Mais nous avons un manuscrit officiel de l'Amérique dans les archives qui a été créé à La Ciotat. Avant, il y avait un peu la guerre, maintenant non. C'est La Ciotat, c'est fini.
Ça y est, c'est charté.
C'est charté, c'est La Ciotat.
Certifié.
Conforme.
Au revoir, Enzo.
Au revoir, vous aussi. Puis, bonne continuation au chantier. OK?
Capter ton attention au lieu que tu t'énerves. T'énerves pas. T'énerves pas. Yeah. Ramène-moi, ramène-moi. Si je reste, je vais faire des dégâts. Ramène-moi, ramène-moi. Je vais rentrer chez toi. Badaboum boum patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat. Chapeau bas, tcha tcha tcha. Rapproche-toi, tcha tcha tcha. Fais comme moi, tcha tcha tcha. Hop de poids, tcha tcha tcha.
Vous êtes bien sur France Inter. Vous écoutez Rendez-vous Place du Marché avec Aurélie Sfez. Et là, on vient d'écouter Bonnie Banane, Tcha Tcha Tcha.
Et regardez, Blue, en face de nous, il y a écrit Eden Théâtre.
Ouais.
C'est le cinéma.
C'est le plus vieux cinéma du monde. C'est lui le doyen des bâtiments qui passent le 7e art.
Il a une architecture intéressante, on dirait un décor de théâtre. On dirait presque un trompe-l'œil.
Ouais, ben d'ailleurs, il s'appelle Eden Théâtre. Ça a été un théâtre pendant longtemps. Et à l'intérieur, tu verras, c'est une espèce de théâtre à l'italienne avec les coursives et une architecture magnifique. Il a été fermé pendant très très longtemps pour des raisons économiques, un peu politiques aussi. Et qu'il ait revu le jour il y a quelques années et en activité. Donc on vient voir des films aussi à l'Eden. C'est pas juste un musée,
ouais,
quoi. Donc ça, c'est louable.
Comment on peut le décrire ? Il ressemble à un petit temple grec, un peu, c'est
ça,
vrai, à l'italienne.
Ouais, voilà, on a ces couleurs ocre, on a cette espèce de fronton un peu à la grecque, là, ouais. Style Parthénon.
On a rendez-vous avec Michel Corny, qui est président de l'association Les Lumières de l'Éden.
Et donc voilà, monsieur Michel Corny.
Vous le connaissez, monsieur Michel Corny ?
Oui, je le connais, bien sûr, on se connaît bien.
Michel Corny, bonjour.
Bonjour.
Votre cinéma, il donne sur le Vieux-Port, face à la Méditerranée, vous êtes sacrément bien placé.
C'est la plus belle terrasse de la ville. Sans effort, les gens viennent prendre un pot, ils peuvent parler de cinéma ou d'autre chose et ils ont en face d'eux une des plus belles baies du monde.
C'est vrai ?
Fabuleux, ça. Hein ?
C'est pas un peu chauvin, ça ?
Si. Mais nous, on est chauvin.
Et c'est quoi votre travail par rapport à ce cinéma ? On dit pas directeur, on dit pas gérant, on dit président de l'association.
Alors, moi, je suis président de l'association qui a en charge, dans le cadre d'une délégation de service public, l'exploitation de la salle. Et puis, comme il faut quand même, pour le CNC, un exploitant, j'exploite.
L'Eden Théâtre, c'est un petit paradis ?
Oh, c'est plus qu'un paradis. Hein. Ici, ça peut être un enfer certains soirs. Hein. Mais enfin, c'est le paradis. Et notre film emblématique, d'ailleurs, pour l'ouverture, ça va être Cinéma Paradiso. Hein, ah ben bien voilà. Sûr. Puisqu'on l'a fait, on l'a ressorti de l'enfer dans lequel il était. C'est-à-dire la destruction, la menace des promoteurs, etc. etc.
Le cinéma ici a une histoire, une incroyable histoire. C'est le plus vieux cinéma du monde. Encore en activité, le cinéma des Frères Lumière.
C'est ça, tout à fait. Il est né, il a été construit en 1889, la même année que la Tour Eiffel.
Venez rentrer dedans.
Pour donner une idée de la bête. Hein. Et 10 ans après, par hasard, hein, la famille Lumière s'installe à La Ciotat. Et durant l'été 95, Louis Lumière invente le cinématographe, tourne les premiers films à La Ciotat. Hein, L'arroseur arrosé, le repas de bébé, les baignades en mer, etc. Et du coup, ce théâtre est devenu la première salle de cinéma.
C'est fou ce que vous nous racontez, Michel Corny, parce que pas grand monde le sait, ça.
Ça n'est pas su. Pourquoi ? Parce que Lyon a pris le morceau. Il faut le dire. Ben, Lyon, c'est la patrie des Lumières. C'est l'usine Lumière. C'est le laboratoire Lumière. Mais les premières fois où on a vu les images bouger, où un public lambda a vu les images bouger, c'est à La Ciotat.
C'était quoi le premier film, Michel ?
Alors, ce sont des films de famille. Lumière, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce que vous faites, vous, le dimanche, vous filmez vos enfants, la grand-mère, les exploits du petit chien. Lumière, il fait ça, dans sa maison du Clos des Plages, là-bas. Il filme la vie de la famille. Et ce sont ces premiers films-là qui sont sortis en 95.
Comment les gens, assis au cinéma, ont réagi à ces premières images animées ?
Alors, la légende dit que le train a semé la panique dans les spectateurs.
Quand, l'arrivée, la... avec le film, oui. L'arrivée du train en gare de La Ciotat.
En gare de La Ciotat. Pourquoi ? Parce que le train, à l'époque, c'est la machine infernale. C'est l'invention du 19e siècle. Hein.
C'est le monstre de fer.
C'est le monstre de fer. Donc, voir ce monstre de fer qui rentre dans la petite salle... Je suis certain qu'il y a eu ce mouvement de recul, que la légende a ensuite transformé en fuite des spectateurs vers les issues de secours, mais j'y crois pas trop. J'ai l'habitude de dire, parce que j'ai pris un peu l'accent du midi, c'est à La Ciotat que l'homme est devenu immortel. C'est-à-dire que dans cette salle, on a pour la première fois la possibilité de refaire revivre ma grand-mère ou Marilyn Monroe. Mmh. Elles sont immortelles.
On rentre dans la salle de cinéma ? Venez Blue, ça va vous rappeler des souvenirs de flirt.
Notamment. Oui, alors il y avait deux écoles. Ceux qui voulaient voir le film tranquillement, donc étaient en bas, et les mauvais élèves qui étaient au balcon et qui envoyaient du chewing-gum sur la tête des autres.
Et vous faisiez partie de quelle catégorie ?
J'étais en haut.
Mauvais élève chewing-gum.
J'ai été mauvais, pas tout le temps, mais j'ai été mauvais élève chewing-gum. Moi, j'avoue, je reconnais.
C'est du propre.
Non.
C'est quoi votre film préféré à vous ? Le film qui vous a marqué le plus ?
Ici ?
Ouais.
Alors, j'en ai guère vu quand même, parce que c'était presque en pleine activité. Qu'est-ce que j'ai vu ?
Il est de l'âge du porno, lui. Hein.
Ouais.
Alors, je ne sais pas s'il va oser le citer.
Parce que ça a fait film porno, ici ?
Bien sûr. Oui, on s'est beaucoup encanaillé à l'Éden. Ouais.
Il paraît qu'il y avait des matchs de boxe aussi.
Aussi, sur la scène, là-bas. Qui était une scène de théâtre, mais également de boxe, de lutte gréco-romaine. Et du musical, hein, on a fait beaucoup de musicals. C'est la scène sur laquelle ont débuté des gens comme Fernandel, Yves Montand, etc. Donc c'est une salle qui a vu beaucoup de choses, et qui a beaucoup de choses à raconter. Chaque fois que je rentre, et je rentre tous les jours au fond de cette salle, je retrouve l'émotion que me donne ce silence d'ailleurs. Hein. Quand nous on a la chance, on arrive, elle est vide, etc. Et ce silence, ça permet d'imaginer tous les gens qui sont passés là. Justement, je parlais de Fernandel, Montand, mais Piaf est venu chanter là. Enfin, c'est une scène mythique.
C'est une petite salle, c'est un écrin, c'est un petit bijou.
C'est un bijou.
Hein,
c'est un bijou et un temple.
C'est un peu sacré, un cinéma ?
Oui, celui-là est sacré.
oui, oui. Alors, c'est pas moi qui le dis. C'est les Charles Berling. Moi, j'ai vu des gens comme Berling, comme des jeunes metteurs en scène qui rentrent là comme dans un temple, hein, ou une église, voilà, ou une mosquée, comme tu veux.
Voilà. Vous, votre film le plus marquant que vous ayez vu ici, Michel Corny?
Ah ben, Cinéma Paradiso, c'est celui qui a ouvert la salle. Et on est resté dans cette histoire, nous. Hein, on est les enfants du paradis.
Vous êtes resté là?
Oui, oui, oui. Et mon regret, parce qu'on l'a fait venir plus de 150 grands personnages du cinéma, je n'ai pas pu faire venir Noiret, qui est mort avant qu'on ne mette la chose en état. Mais ça, c'est dommage. Hein, oui. Parce que c'est lui vraiment qui aurait aimé revivre son film ici. J'en suis certain.
J'aimerais bien qu'on monte sur la scène. Allez. On peut le faire?
C'est pas moi qui décide, donc visiblement, on peut le faire.
Là, j'ai fait venir Bernard Pivot, par exemple. C'était plein, plein, plein. Des gens jusqu'au bord, ici. Il était magnifique. C'est une des plus belles soirées de l'Éden, d'ailleurs.
Ouais. Comment ça s'est passé ici, pendant la pandémie? Comment vous avez vécu ce moment?
Ah, mortel. Mortel, hein, parce que, comme le cinéma n'est qu'un prétexte, l'Éden est un prétexte. C'est un prétexte à rencontre, à voir des gens. Donc, être privé des gens, quels qu'ils soient, que ce soit nos amis ou que ce soit des étrangers, nous, on était tout seuls. Et c'est terrible d'être seul.
C'est la première fois dans l'histoire, donc, on connaît une période où on ne peut plus aller au cinéma.
Rien faire. Aussi long, probablement, oui. Pendant la guerre, c'était ouvert. L'Éden n'a pas fermé en 40.
Qu'est-ce qui se passait ici pendant la guerre, d'ailleurs?
Cinéma.
Est-ce qu'il y avait des nazis qui venaient ici?
Bien sûr, oui, 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 oui. On passait les actualités pâtées, hein, sur la scène, et où dans la salle, les gens hurlaient en voyant Pétain, par exemple, ou des choses comme ça, si. Oui, oui.
Scandale.
Nous sommes une ville de résistance, La Ciotat. Blou en parlerait mieux que moi. Et donc, les chantiers navals où vous irez tout à l'heure étaient un lieu de résistance.
Aurélie, je vais vous laisser en bonne compagnie parler de cinéma. On se retrouve au chantier avec Tatou, Marie-Noël. On va voir Gérard Carodano. Et on va passer un super moment. Ils vont te raconter des trucs extra.
Je reste un peu au ciné avec Michel. Allez, à l'heure.
Bye bye.
Michel Corny, est-ce qu'on peut voir la cabine de projection?
Alors, on y monte. On va passer par là.
Okay. Alors, on monte.
On monte par un escalier qui est plus que centenaire, hein, qui est un escalier d'origine. Avec en face, là-bas, c'est la fenêtre des resquilleurs. Quand les jeunes gens comme Blue venaient au cinéma et ne voulaient pas payer leur billet, ils passaient par la rue derrière. Il y avait un comparse qui venait ouvrir cette fenêtre et ils allaient directement au balcon, qui est le balcon des mauvais garçons.
C'est ça, c'est expliqué. Ceux qui envoient du chewing-gum. Ah. Là, il y a trois sculptures.
Au milieu, Louis Lumière.
Évidemment.
L'inventeur des cinématographes, à côté de son frère Auguste, qui lui n'a pas participé à l'invention, mais on dit invention des frères Lumière.
Et le grand monsieur là?
Et le grand monsieur, c'est leur père, à qui on doit tout, parce que c'est lui qui a choisi d'installer sa famille à La Ciotat. Imaginons qu'il ait choisi de s'installer à Cassis.
Eh ben le cinéma serait à Cassis.
Eh ben voilà, et il n'y aurait pas d'Éden.
Pourquoi ils ont choisi La Ciotat, les Lumières?
Parce que Antoine Lumière, le père, donc, était un peintre. Et il a rencontré à Paris un ciotadin qui lui a dit « Toi qui aimes la peinture, viens peindre à La Ciotat, tu verras, il y a une lumière fabuleuse. »
C'est ça, tout le monde nous parle de la lumière ici.
Oui, oui. Et donc il a installé, avec les moyens de la famille, énorme, une sorte de palais.
Il est situé où ce palais?
Tout près des plages, quand on sort de l'Éden, parce que tout le monde sort un jour de l'Éden, on tourne à gauche et on fait quelques hectomètres du côté des plages.
Ils étaient riches alors, les Lumières?
Ils ont fait vraiment une très grosse fortune à partir des inventions de Louis.
On en voit une invention, là.
Voilà. Même si elle n'est pas tout à fait vraie.
C'est une repro?
Une copie, hein, c'est une copie. Mais le cinématographe, c'est cette boîte qui était à la fois capable d'enregistrer le film et de le projeter avec l'air d'une lanterne, bien sûr.
Qu'est-ce que c'est beau?
C'est très, ouais. Là aussi, c'est très émouvant de penser qu'on est devant une boîte qui a changé le monde. Cette boîte a changé le monde.
Michel, on est attendu sur le chantier naval pour l'apéro.
Oui.
Je vais aller les rejoindre, je vais vous laisser.
Ben, je le regrette parce qu'on vous aurait bien gardé toute l'après-midi.
Avant, Michel, on va écouter un disque. C'est José González qui chante...
Vision.
Visions, trying to make sense of a now, trying to make sense of a past, to show us how. Visions, imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events with no one to praise or blame. Suffering and pain, we are patiently itching away toward unreachable utopias. Visions, enslaved by the forces of nature, elevated by mindless replicators, challenged to steer our destiny. Visions, look at the magic of reality while accepting with honesty that we can't know for sure what's next. No, we can't know for sure what's next, but that we're in.
Vous êtes bien sur France Inter, vous écoutez Rendez-vous Place du Marché. Et ici, on est à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône.
France Inter. Rendez-vous Place du Marché. Aurélie Spez.
Blue, on vient d'arriver au chantier naval.
Ouais, on est dans l'antre, là, dans le cœur du poulet. Ouais.
Le cœur du poulet.
C'est ça.
On a quitté le cinéma.
Ouais.
On est arrivé ici, on a passé la grille du chantier. Et là, il y a plein de voitures qui nous attendent.
C'est ça, parce on est bien accueillis. Ouais. Et t'as vu, on est au cœur de l'acier, là. Et là, c'est quand même génial. T'as vu ce qu'on voyait tout à l'heure en paysage. Là, on est vraiment dessous et c'est quand même quelque chose.
Et là, à notre gauche, dans la camionnette, il y a Gérard Carodano. Vous le connaissez, Gérard ?
Bien sûr, tout le monde connaît Gérard.
Vous le connaissez, c'est un ancien pêcheur ?
C'est pas un ancien pêcheur, c'est le pêcheur.
Donc vous rentrez dans la voiture de Manu.
Voilà.
Moi, je rentre dans la voiture de Gérard.
De Gérard.
On se retrouve dans la cabane de Gérard pour l'apéro.
C'est beau ça, la cabane de Gérard. C'est très surtadé, hein, la cabane de Gérard.
C'est très
voilà, c'est comme ça.
Et on va prendre l'apéro.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Et hop.
Et voilà. Salut.
Je claque.
Bienvenue dans les chantiers navals, dans les anciens chantiers navals, parce que maintenant, ça s'appelle La Ciotat Shipyard. Il a fallu anglophoniser le nom. Là, moi, j'ai passé des années, une dizaine d'années en tant que traceur de coque, puis pompier professionnel. Puis après, je l'ai quitté, le chantier naval, pour vivre de ma passion.
Vous pêchez des poissons, vous pêchez des créatures même.
L'agence de l'eau m'a donné ce poste parce qu'un jour, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit « Gérard, tu es nos yeux sous l'eau, t'as des milliers de plongées dans la zone. On est preneur de tes constats. » D'autant que tu aimes bien les partager, donc voilà, et c'est très bien quoi. On intervient dans le milieu scolaire également, voilà.
Gérard Carodano, on est dans votre camionnette et on a traversé tout le chantier naval pour arriver jusqu'ici, parce que c'est au terminus, c'est une petite trotte. Hein. Heureusement qu'on l'a pas fait à pied. Hein.
Ouais, il y a un peu plus d'un kilomètre. Hein. Le chantier c'est assez grand. C'est une zone qui est... Alors moi, je l'ai connue vraiment à l'ère des chantiers où ça grouillait de monde. Il y avait 6000 mecs là-dedans qui travaillaient. Ouais. Et quand le chantier a fermé, c'était un cataclysme. Hein. Il y a eu des dépressions, il y a eu des suicides, il y a eu... Voilà. Et nous, on a eu la chance d'y retourner, de pouvoir créer ce petit village avec des cabanes, là. Et on est au top, là, parce que... Bah, déjà, c'est le seul endroit de la Ciotat où tu peux laisser ta bagnole avec la clé dessus et la retrouver. Et puis, j'ai mes chiens en permanence avec moi, mes chiens, mes enfants, mes petits-enfants. Hein, je suis un mec heureux. Ouais.
On y va. C'est votre cabane ? C'est quoi ?
C'est un village, ouais, c'est une cabane. C'est une cabane de pêcheurs. Là, à son poste préféré, René, le patriarche, mon père, parce que c'est l'endroit où il mange tous les jours et où il se trouve bien.
Bonjour René.
Bonjour.
Et vous êtes bien installé là, avec votre chapeau de paille, vos lunettes, votre canne, ouais, le chien.
C'est, ouais, je suis l'ancêtre, le
doyen.
Le doyen, ouais.
René, au passage, il a plus de 40 ans de chantier.
J'ai 9 arrières petits-enfants, 9.
Victor et Timéo.
Donc c'est 4 générations ici. C'est bonjour.
Ça. Bonjour.
Victor ou Timéo ?
Victor, moi.
Timéo ? Donc vous avez quel âge tous les deux ?
Moi j'ai 19.
Et comment vous pouvez décrire cet endroit ? C'est incroyable. Hein ?
Il est incroyable. Parce qu'on est sur un cadre de travail qui est magnifique. Parce que on vit de notre passion et on est bien.
C'est des cabanes en tôle ?
Ah oui, là c'est que de la tôle. Qui va bientôt s'effondrer, mais elle tient toujours.
Vous passez votre journée ici ?
Ouais.
Qu'est-ce que vous allez faire, vous, quand vous serez adulte ?
Ben, pêcheur. Parce que je viens de sortir de l'école de 7. Je viens d'avoir tous mes diplômes maritimes. Et là, je travaille avec Gérard.
Gérard, ton papy ?
C'est ça. Qui m'apprend le métier de pêcheur et de sentinelle de la mer.
T'as jamais voulu faire autre chose ?
Non. Je me vois faire que ça. Voilà.
C'est ta place.
C'est ça. Voilà.
C'est un panorama génial parce que en face de nous, on a les yachts et puis il y a les genêts, il y a les fleurs qui poussent comme ça, de manière un peu chaotique, dans une espèce de joyeux bordel.
C'est ça.
Avec des morceaux de chantier, les grues, les bateaux, les tables installées pour boire l'apéro. On a l'impression d'être dans un film.
C'est comme si on était dans un film, là. Pour l'apéro, en tout cas, c'est bien. Au soleil, là, on est bien.
On est dans quel film ?
Dans le film de ma vie.
C'est le film de ta vie.
C'est ça, le film de ma vie. Oh, ouais. On se crie dessus, après c'est trop bien. Ça fait rire.
Ça te fait rire ?
Ouais, ça fait rire.
Qu'est-ce qui te fait marrer ?
Des conneries qui dit le vieux, et tout le monde que des conneries disent, et c'est drôle. Tous les midis, on rigole.
Gérard.
Ouais.
Le grand-père. Votre petit-fils Victor.
Oui.
Il me dit, mon papy, il m'apprend tout.
On est pêcheurs en plongée. Ouais. On plonge. Les minots, ils sont déjà, ils commencent à avoir leur brevet de plongée. Chaque année, je leur fais passer un niveau supplémentaire pour qu'ils soient au top le jour où moi, je m'arrêterai. C'est pas pour demain, mais on ne sait jamais parce que ma vie commence sous la surface, moi.
Quel conseil vous lui donnez à votre petit-fils ?
On fait un métier qui est reconnu comme être un des métiers les plus dangereux. Donc, la prudence est le maître mot. Et ils savent gérer un ordinateur de plongée. Ils savent qu'il ne faut pas paniquer. On a toujours une ceinture avec un couteau sur soi pour pouvoir couper un fil. La prudence à tous les niveaux, à la mer, c'est impératif.
C'est beau, Gérard, cette transmission.
C'est magnifique d'avoir mon père et mes petits-enfants, mon fils et mes petits-enfants, et de leur retransmettre un truc que j'ai créé de A à Z. Pêcher des poissons vivants, c'est un métier qu'on a créé. Nous, on n'utilise aucun produit.
Vous êtes dans un écosystème.
Mais moi, je dis que le pêcheur artisan, fait complètement partie de l'écosystème marin. Dans les années 50-60, il y avait 70 pêcheurs à La Ciotat. Aujourd'hui, on est 8. Donc, c'est quand même une espèce qui a morflé. Et c'est ces petits pêcheurs artisans qui sont les sentinelles de la mer et qu'il faut écouter, à contrario de la pêche industrielle qui n'a rien à voir avec nous. On a un impact sur la ressource. Le pêcheur artisan, c'est comme un poisson. Il mange à sa faim. Nous sommes des bateaux à faible capacité de capture. C'est pour ça que je défends tous les petits pêcheurs artisans dans ma fonction de prud'homme.
Gérard, vous pêchez des poulpes, vous avez pêché Paul le poulpe.
Eh ouais, en 2009. Et
oui, qui avait fait les pronostics.
En 2010.
Les pronostics de la Coupe du Monde de foot.
Ouais. Comme ça, il est devenu célèbre celui-là.
Intelligent.
Non, mais lui, c'était un poulpe comme un autre. Il n'en avait rien à carrer du foot, comme moi. Le poulpe, ben, il a fait 8 sur 10. Hein.
Comment il a trouvé? Comment il a deviné le poulpe?
Il y a plein de mecs. Le poulpe, il ne faisait pas la différence hein, dans la réalité.
C'est un hasard.
Ouais, et on lui a mis les drapeaux, et puis on lui a mis un crabe dedans, et puis il a plongé du bon côté, voilà. Et ça a fait le buzz, là. Et depuis, je vends des poulpes. Alors, les poulpes, on est obligé
de faire
des poulpes très petits.
On va les voir, on est dans votre aquarium, là.
Voilà, on arrive dans la zone de stockage des spécimens. Tous ces spécimens qui rentrent vivants doivent ressortir vivants. Soit vers un aquarium public, un grand musée européen, soit retour à la mer. On mange des poissons qu'on a pêchés à la traditionnelle, mais un coup qu'ils sont rentrés vivants, interdiction de ressortir un poisson et de le tuer pour le bouffer.
Ici, on a des bacs en plastique énormes, jaunes, bleus, des grandes piscines avec plein d'espèces incroyables.
Des invertébrés, des crustacés. Là, il y a une très belle raie pastenague. Elle est là-bas, elle arrive là. Elle est magnifique. Et ça devient des animaux de compagnie. Là, il y a des petites demoiselles, là, des castagnoles. Là, à l'intérieur, il y a un poulpe et une grosse araignée de mer. Regarde, là, il y a un poisson exceptionnel. Ça s'appelle Dactyloptère volitans. Regarde ce grondin avec les grandes ailes bleues. Là, c'est fascinant, ça.
On dirait un papillon.
Ça, c'est un papillon. Voilà.
C'est un poisson papillon.
Ouais, ça, c'est, j'en ai un ou deux par an. C'est bon, ni à frire ni à bouillir. Par contre, c'est un poisson qui est de très grande valeur pour un aquarium public.
Là, il a replié ses ailes et des fois, il les déplie.
Les ailes, ce n'est pas pour voler, on dirait un papillon. Les ailes, c'est pour impressionner ses prédateurs.
On dirait soit un papillon, soit le paon des poissons.
Exactement. C'est la couleur de la queue du paon.
Ouais.
Et le truc, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup.
Vous le vendez cher?
Ça vaut entre 400 et 500 balles. Ouais. Et puis, le mec qui achète ça, il ne va pas prendre que ça. Donc, ouais. C'est une main qui lave l'autre, comme on dit.
Là, vous allez donner à manger aux poissons?
Mais là, ça, c'est ce qui me reste de la nourriture de mes poissons. Et regardez à quelle vitesse ça va monter, là. Ça.
C'est la cohue.
Ça, c'est la cohue, c'est la curée. Ils habitent sous le bateau et ils savent que Gégé, il va leur donner à bouffer. Ça monte et ceux-là, on ne les touche pas. Hein. On veut que personne ne vienne pêcher. C'est nos collègues. Hein,
c'est les vôtres.
Ouais,
vous les aimez quand même un peu. Hein.
Si on n'aime pas les poissons, on n'a rien à faire dans ce métier.
Vous les bichonnez. Hein.
Vaut mieux les bichonner. Ouais. On les attrape pas pour les torturer. Hein.
Allez, venez, on va boire l'apéro là-bas.
Allez, on y va.
Vous nous avez amené le pastis.
Ouais, il en reste un peu, ouais.
Vous me faites penser aux chasseurs de requins dans les Dents de la Mer. Vous voyez,
sauf que moi, les requins, on en pêche en prise accessoire et on les relâche tous. Hein, on ne tue pas les requins. Voilà.
Apéro,
allez, c'est l'heure.
Quand j'arrive, mon pastis est déjà servi.
Avec modération, René.
Oui, mais je bois que celui-là. Ah. Pas de mal.
René.
Oui.
Donc vous êtes le père de Gérard.
Oui, je suis le père de cet énergumène.
C'est vous qui lui avez appris à pêcher les poissons?
Pas du tout. Je ne sais pas pêcher, moi.
Vous faisiez quoi ici sur le chantier?
Charpentier de marine de métier.
J'aime bien vous voir assis sur votre chaise avec votre canne, votre chapeau, vos lunettes de soleil pétrole. C'est vraiment le parrain, quoi.
Eh bien voilà, c'est ce qu'ils me disent, on te dira le parrain.
C'est Don Corleone.
On l'appelle René le Terrible.
Vous êtes terrible?
J'en sais rien, il paraît que je suis bariole, mais...
Il a un coup de fourchette redoutable.
René le Terrible...
La terreur des andouillettes.
J'ai connu La Ciotat avec un chantier naval rikiki. Il y avait deux cales de lancement, mais des petits navires, des voiliers, des trucs comme ça.
Ici, le chantier naval, ça a été un énorme bassin d'emploi.
Ouais.
Ça s'est arrêté.
En 87.
Il y a eu une privatisation et une bande d'ouvriers a décidé d'occuper le chantier. C'était les 105.
C'est grâce à eux que je suis là.
Il y a eu une belle lutte fraternelle.
Ah putain, il y a eu une lutte comme peu de monde a mené une lutte comme ça. Hein. C'était tout le monde disait qu'ils allaient se planter et compagnie, mais bloquer un site comme ça pendant autant de temps et puis arriver à ce qu'aujourd'hui ça tourne, parce que là. Il y avait deux hélicos par jour qui filmaient la zone, et s'il n'y avait pas eu ces mecs-là, ben aujourd'hui, il y aurait des marinas, il y aurait des gens qui ne parleraient pas français, et il y aurait des barrières, et nous, on n'aurait plus accès à cette zone qui, quand même, est une zone pour les Ciotadens, quoi.
Santé. On est là, au milieu du chantier.
Ouais, on est bien, parce que c'est à la fois un endroit où, ben, où avec un héritage et un patrimoine énorme, comme ça nous parlait. Et qu'il y a un endroit où il y a du bruit, parce que c'est un chantier, et à la fois, t'as vu aussi, tu as une espèce de bulle un peu à part, quoi.
Blue, Tatou, vous êtes encore avec nous, et ça, c'est chouette.
Ouais, à chaque fois que je suis dans ce site, je suis bien. Je suis dans un bout de la Ciotat préservé, on va dire. Voilà, ne plus avoir le chantier, avoir la marina, comme ils voulaient qu'on connaît, je pense que ça aurait tué notre être, tu vois, notre identité, voilà.
Blue, vous avez pris la guitare.
Ouais.
Vous aimez la musique, René?
Ah oui, 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 mais je chante sous la douche quand même. Ouais.
Vous allez chanter avec nous?
Pourquoi pas?
Ils vont jouer un morceau qui s'appelle La Ciotat.
La Ciotat?
Oui. Vous connaissez La Ciotat?
Vous avez vu le film hier soir de La Ciotat, non?
Non. C'était quoi?
Meurtre à La Ciotat.
Quel programme?
Ben, il aurait fallu que vous le voyiez, parce que ça parlait de La Ciotat, justement, à la fermeture. Avant, c'était... c'était meurtre dans les Calanques. Alors, eh bien, ça se passait aussi en partie à La Ciotat.
C'est vrai, il tourne plein de films ici.
C'était à la 2. Hein. À la 2, il y avait ces deux trucs, un derrière l'autre. C'était La Ciotat en...
100% Ciotat.
100% Ciotat.
On va écouter de la musique. C'est pas meurtre à La Ciotat, c'est La Ciotat. La Ciotat, c'est quoi? C'est un peu l'hymne de la ville?
C'est devenu un peu... C'est pas, on ne décide pas d'écrire l'hymne, donc c'est devenu.
C'est devenu.
Et les gens ne l'appellent pas La Ciotat, alors ils l'appellent ma pitchounette.
On vous écoute.
J'aurais pu vivre au Pôle Nord, du côté d'Aix ou d'Avignon. J'aurais pu vivre au Pôle Sud, habiter Bandol ou Toulon, oh pauvre dit. J'aurais pu vivre en Alaska, à Katmandou, à Bornéo, oh. Mais en fait, comme tu le vois, j'habite à La Ciotat, avec la mer et les bateaux. Refrain. Ma pitchounette, moi et mon bleu de Chine, à La Ciotat. On fait ménage à trois, une douce tresse. Ma pitchounette, moi et mon bleu de Chine, près du vieux port, on est comme des rois. J'aurais pu vivre sous la tente, dans une case ou un igloo. Glou, glou, glou. J'aurais pu parler, mettons, le varois, le nîmois, le niçois, le chinois, le finnois.
Je te jure, il est prétentieux.
Habiter dans l'Himalaya, aïe. Mais pour le ski, je suis pas chaud. Oh non, hein. Alors, récapitulons, j'habite à La Ciotat, c'est ça, voilà. Le torse nu, les pieds dans l'eau. Ma pitchounette, moi et mon bleu de Chine, à La Ciotat, on fait ménage à trois.
Ma pitchounette, moi et mon bleu de Chine, près du vieux port.
Bon, je vais jouer du Bronzina, hein.
À La Ciotat, à La Ciotat, à La Ciotat, à La Ciotat. On est pas bien là? On est super bien à La Ciotat. À La Ciotat.
Ciotat. À la Ciotat.
On peut faire une fin lente, tu sais, où tout le monde lève les mains, tout ça. À la Ciotat.
Merci à toutes et à tous.
Gramassi en tutti.
Soutadin, soutadenka. C'est Benoît Thuot qui a réalisé cette émission géniale.
C'est la super Marion Philippe qui a préparé cette émission.
Merci à tous les invités de la Ciotat.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter.
Je vous souhaite une bonne journée. J'ai mon estomac qui crie famine. Je vais de ce pas, je vais me restaurer. Allez, merci, au revoir. Allez, à l'heure.
Demain, vous retrouvez Antoine Lee à Rosny-sous-Bois. Après les informations, c'est à vous, Camille Cronier, pour le débat de midi. Bonjour Camille, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Bonjour Aurélie, aujourd'hui on se met à table et on parle gastronomie et grande table. À tout de suite.